Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos tous ensemble. Ce soir à la une, tic-tac, tic-tac, ce week-end nous serons à 1000 jours des JO de Paris 2024. Alors le sport tricolore sera-t-il cette fois au rendez-vous après le bilan décevant de Tokyo? Un homme est chargé de booster nos chances de médaille, Claude Onesta, l'ancien entraîneur en or du handball français. Sa mission est-elle impossible? Comment relever le défi en 3 ans seulement, il sera notre invité de 18h15. Les autres titres de l'actualité maintenant, ils sont à suivre dans votre journal imminent. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le premier qui se lève, je tire. Diffusion glaçante cet après-midi au procès des attentats du 13 novembre d'une séquence audio enregistrée au Bataclan ce soir-là. Puéril, les mots ce soir sur RTL du ministre de l'Intérieur de Jersey. Il s'indigne, je cite, de la crise de nerfs de la France et de ses menaces de rétorsion face au blocage sur les licences de pêche. Dans ce journal aussi, un distributeur de billets chez le Buraliste. Nous serons dans le Morbihan, lancement demain. Et puis, entraîneur autant que nounou, quand le coach du PSG s'agace des déboires de ses joueurs. Les courses dans le Quintet Plus à Longchamp, il fallait jouer le 8, l'As, le 6, le 10 et le 2.
Après 18h30, les dessous de l'actu, les dessous des bénéfices monstres de Total aujourd'hui, multipliés par 23 en un an, au moment où vous grimacez à la pompe. Ensuite, laissez-vous tenter dernière. Peter Pan va occuper vos enfants pendant les vacances. 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes de curiosité, de découverte avec Cyprien Signy et l'équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le menu?
Ce soir, enquête sur les violences urbaines. Est-ce que c'était vraiment mieux avant? Réponse dans On défait le monde. Et puis, vous découvrirez que des loups rôdent autour de Nantes et que le Vatican compte participer aux JO de Paris 2024.
À 19h15, on débattra justement des violences urbaines. On va refaire le monde autour d'Éric Brunet et revenir notamment sur la visite de Marine Le Pen à Alençon. Sont aujourd'hui. Des points réguliers sur le temps avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance?
Et c'est parti pour un temps perturbé dès demain, un vrai temps de Toussaint.
Le détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et c'est donc une bande-son terrifiante qui a été diffusée cet après-midi au procès des attentats du 13 novembre.
Le mois dernier, une trentaine de secondes du début de l'attaque au Bataclan avait été diffusée. L'extrait d'aujourd'hui se déroule une dizaine de minutes plus tard. Cindy Hubert, vous êtes devant la cour d'assises spéciale de Paris et c'est donc un long extrait de cet enregistrement capté par un dictaphone ce soir-là qui a retenti dans la salle d'audience.
Les voix sont lointaines puis se rapprochent. Tout le monde à terre. Nous, on vous bombarde ici. On n'a pas besoin d'avion, nous. Vous avez voté pour François Hollande? Remerciez-le. Toute la salle d'audience tressaille. Une première balle vient d'être tirée. Le son de la Kalachnikov écrase la cour d'assises. Le premier qui bouge reprend la voix. Je lui mets une balle dans la tête, c'est clair. Vous voulez un exemple? Coup de feu. Tu crois que je te vois pas, toi, là-bas? Coup de feu. Nous sommes à la 8e minute à peu près de l'attaque du Bataclan. Les terroristes viennent d'abattre des dizaines de personnes. L'essentiel de la tuerie de masse vient d'avoir lieu. Mais la voix de ces hommes ne tremble pas. Les assaillants déclament leurs revendications d'un ton nonchalant. Les écouter est d'autant plus effroyable. À cet instant précis, deux des terroristes sont montés au balcon et tirent sur la fosse. Personne ne crie. Silence infini. 3 tirs à nouveau. Les policiers de la BAC viennent d'entrer. La ceinture du 3e terroriste en bas sur scène explose. Fin de la séquence. Pour quelques minutes, la cour d'assises a arrêté de respirer.
4 minutes terriblement longues, dont compte rendu signé Cindy Hubert qui suit pour RTL ce procès des attentats du 13 novembre. Autre procès, celui du crash du petit avion du footballeur Emiliano Sala entre Nantes et Cardiff en 2019. L'organisateur du vol a été reconnu coupable de mise en danger par un tribunal gallois. Il risque 5 ans de prison. Sa peine sera connue le 12 novembre prochain.
RTL, 18h04, des appels au dialogue, mais pour l'instant, pas d'avance et le dossier de la pêche continue d'envenimer les relations entre Paris et Londres.
La France qui, dès la nuit dernière, a dérouté un navire britannique pêchant en zone française sans licence valide avec à la clé une possible amende de 75 000 euros.
Le capitaine du chalutier dénonce une manœuvre politique. Le gouvernement de Jersey se dit extrêmement déçu et sur RTL ce soir, son ministre de l'Intérieur et de l'Environnement, Grégory Guida, pointe le comportement infantile de la France.
Est-ce qu'on pourrait travailler entre adultes et respecter les règles, passer par l'Europe? On est en train de négocier le plus gros traité du 21e siècle. Il y a un problème très très simple. Si vous êtes un pêcheur français, si vous voulez démontrer que vous avez pêché les 11 jours nécessaires pour avoir une licence dans les eaux territoriales de Jersey, tout ce qu'il faut, c'est venir avec 11 bouts de papier, les montrer et nous on donne une licence. On n'a aucun problème. Si la France n'est pas contente sur le processus, ils peuvent demander à l'Europe de faire des recherches. C'est pas la peine de votre côté de jeter vos jouets et de faire une petite crise de nerfs. Tu me donnes toutes tes billes ou je te tape. Et c'est puéril, c'est puéril.
Pas de crise de nerfs, dit donc le ministre de l'Intérieur et de l'Environnement de Jersey avec Valentin Boissé pour RTL. Paris, de son côté, assume. Et le Premier ministre Jean Castex réitère sa demande. Le Royaume-Uni doit respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Brexit.
L'escalade n'est pas du fait de la France. Les Britanniques doivent respecter leurs engagements. Je ne demande pas mieux qu'une désescalade intervienne. Je veux dire au gouvernement britannique que nous veillerons au respect de nos intérêts et au respect de la parole donnée.
Le Premier ministre Jean Castex ferme donc ce matin l'exécutif qui doit prochainement annoncer la construction de nouveaux réacteurs EPR, le nucléaire présenté mardi par RTE, gestionnaire du réseau électrique français, comme indispensable sur la route de la neutralité carbone.
Sauf qu'aujourd'hui, un nouveau rapport dévoilé par le média en ligne Context présente un autre scénario. Vous en avez eu la confirmation, Virginie Garin, bonsoir.
Bonsoir.
Ce rapport rédigé par les services de l'État vient semer le trouble sur le coût du nucléaire.
Voilà, RTE prévoit un coût de construction des futurs réacteurs de 9 milliards d'euros. Dans ce document publié aujourd'hui, le chiffre est à peu près le même, mais si tout va bien, si le processus industriel est bien maîtrisé, il ne prend pas en compte d'éventuels défauts. Par exemple, des soudures mal faites, comme on l'a vu à Flamanville, 1,5 milliard en plus. L'inflation des matériaux, comme on le voit en ce moment à cause de la crise du Covid. Les recours juridiques, donc, un EPR pourrait coûter 13% plus cher. Incertitude aussi sur la durée de construction, qui pourrait être de 5 ans supplémentaires, selon cette étude réalisée par les services du gouvernement. Alors ce soir, le ministère de l'écologie, un peu embarrassé, confirme son existence, mais parle d'un document de travail non validé. Un autre audit doit être publié bientôt pour permettre à Emmanuel Macron de décider. Lundi, l'hypothèse d'un futur énergétique sans nucléaire, uniquement avec des renouvelables, avait été écartée à cause du coût. Construire des réacteurs coûtait 10 milliards d'euros en moins par an. Eh bien, si on en croit cette étude, cet écart se resserre. Il est divisé par 3.
Les explications de Virginie Garin pour RTL.
Allez, une pause dans ce journal. Et dans un instant sur RTL, des distributeurs de billets dans les bureaux de tabac. Moins de kilomètres à faire, plus de clients potentiels. Clients et commerçants s'en réjouissent. Un reportage à suivre dans le Morbihan, le plus beau département de France. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et donc la suite de votre journal à 18h09 sur RTL. Il faisait déjà office de poste de perception et ce n'est pas fini. À partir de demain, certains bureaux de tabac accueilleront aussi un distributeur de billets.
L'expérimentation a été annoncée cette semaine pour le courant du mois de novembre. Expérimentation lancée même dès demain chez le buraliste de Péol, dans le Morbihan, à l'est de Vannes. Reportage pour RTL de Nicolas Bobby.
C'est une grosse borne noire installée à l'écart du comptoir. Philippe Aliran, patron du bar tabac Le Chouchène.
Comme tout distributeur, vous mettez votre carte, vous faites votre code, et si vous avez de l'argent sur votre compte, il vous en donne un peu.
On peut retirer combien ?
C'est un distributeur normal d'argent. Ça dépend de votre carte à vous et de votre banque à vous.
À Péol, 2800 habitants, tous les utilisateurs seront gagnants.
On gagne du temps, et puis au prix que le litre d'essence aujourd'hui, on va gagner.
Je vais l'utiliser. À Péol, c'est très très utile.
Il n'y a pas mieux. C'est indispensable dans une commune, car il faut faire au moins 9 km minimum pour aller chercher de l'argent.
Ça va bien nous dépanner, ça sera parfait. C'est mon époux qui me retirait de l'argent pour la semaine, quoi.
Peut-être pour les personnes âgées, ça peut leur servir, mais pour les jeunes, non.
S'il était dehors, ça serait peut-être mieux. Bon, on prendra l'habitude d'y aller aussi, même si on n'y va pas autrement.
Ainsi, ce lieu de rencontre et de convivialité devrait voir augmenter sa fréquentation.
Voilà, source de diversification aussi pour les buralistes. Nicolas Bobby, à Péol, dans le Morbihan, Chouchène pour RTL. Une première dans l'industrie pornographique. 4 acteurs ont été mis en examen la semaine dernière pour viol. 3 d'entre eux ont été incarcérés. Direction à présent les États-Unis et avant son départ pour l'Europe où il assistera notamment à la COP26, Joe Biden cherche à asseoir son image de défenseur de la planète.
Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York, le président américain qui a même retardé son départ pour pouvoir obtenir le soutien du Congrès sur son plan de relance, son plan de lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, Joe Biden, c'est en ce moment un marathonien qui doit sprinter dans la dernière ligne droite après 42 kilomètres, d'aller au Capitole, mettre la pression sur son parti, sur les démocrates réticents. Pour la droite du parti, son plan va trop loin, à gauche, pas assez. Il joue en ce moment sa parole, sa crédibilité aux États-Unis et dans le monde. Joe Biden vient de s'exprimer, il a notamment déclaré ceci.
On a passé des heures et des heures ces derniers mois à travailler sur ce plan. Personne n'a obtenu tout ce qu'il souhaitait, moi y compris. Mais aujourd'hui, avec mes collègues démocrates, nous avons un cadre pour mon grand plan de relance. Alors attention, il parle de cadre, pas d'accord. Il va encore falloir passer au vote. On attend donc les détails. Le plan initial était de plus de 3 000 milliards de dollars. Il devrait être de 1 750 milliards, dont 555 milliards pour lutter contre le réchauffement climatique. Joe Biden aurait fait des concessions importantes qui pourraient lui coûter cher sur la baisse du prix des médicaments, par exemple. Il joue tout simplement en ce moment sa présidence.
Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL.
À la veille de son match contre Lille, le PSG voit son infirmerie se remplir après Marco Verratti. C'est Kylian Mbappé qui est forfait pour une infection ORL. Lionel Messi lui est incertain à cause d'une gêne musculaire.
Le PSG où l'entraîneur Mauricio Pochettino s'agace. Alors pas à cause de son banc, Philippe Sanfourche, mais à cause des déboires incessants de ses joueurs à gérer.
Ben oui, la semaine passée, c'était les frasques amoureuses de Mauro Icardi. Ah là là. Ces derniers jours, l'agression d'Ander Herrera au Bois de Boulogne, ça ne s'arrête jamais. Et on se souvient du coup des propos de Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du PSG, qui se demandait s'il était toujours un simple entraîneur ou devenu un politicien, un ministre des sports, spécialiste des gestions de crise. Aujourd'hui, Mauricio Pochettino adopte un style plus politique, mais sur le fond, il admet quand même que le PSG est un club à part.
Mon éducation m'interdit de juger les gens avant de les connaître. C'est la même chose pour un endroit ou pour un club. Je peux simplement dire que si je suis ici, c'est pour gérer un groupe de 33 joueurs et mener un projet sportif. C'est mon secteur et c'est le seul.
Sous-entendu, je veux être interrogé et jugé sur les seuls résultats, ma fonction d'entraîneur qui englobe pourtant, il est bien en train de s'en rendre compte, une multitude de paramètres très éloignés du terrain et qui ont pourtant une incidence majeure sur le comportement de l'équipe.
Les précisions de Philippe Sanfourche pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Les écrans pour les plus jeunes, ça a parfois du bon, comme l'illustre l'histoire de Victor, 9 ans. Début octobre, ce jeune garçon a sauvé l'un de ses camarades qui était en train de s'étouffer à la cantine. Victor avait appris les bons gestes grâce à un tutoriel sur Internet.
Ah, formidable.
Il s'est vu décerner la médaille de sa ville de Tavel dans le Gard la semaine dernière.
Chapeau Victor. Merci beaucoup Marion. À tout à l'heure sur RTL. Le temps pour Peggy. C'est fini le printemps, là,
exactement.
C'est ça ?
Ah bah oui, bah on est en plein automne, là. Mais vraiment, on a la perturbation demain qui va concerner l'ouest du pays demain matin avec un ciel couvert, de la pluie, du vent. Alors, c'est pas de grosses pluies, mais quand même. Près de la Méditerranée, ce sera bien chargé avec quelques averses et puis ça restera beau à l'est. Dans l'après-midi, cette perturbation, elle va se décaler vers l'est. On va la retrouver entre la Nouvelle-Aquitaine, le centre, l'Île-de-France et les Hauts-de-France avec quelques averses. Sur le nord-ouest, on retrouvera ce qu'on appelle un ciel de traîne entre éclaircies, averses et nuages. Et puis, les pluies vont se renforcer sur les Cévennes, surtout en fin de journée. Ce sera le début d'un épisode cévenol, donc de fortes pluies sur les Cévennes. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à un fort cumul de pluie. En 48 heures, il pourrait tomber jusqu'à dimanche matin plus de 2 mois de pluie. Donc soyez vigilants, c'est une situation à surveiller. Et sur le flanc est, demain après-midi, ça restera sec, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse, où il y aura encore des averses. Tout ça sous des températures en baisse, mais encore douces. De 15 à Brest, à 22 à Perpignan, 16 à Paris, 17 à Rennes et Strasbourg, 21 à Toulouse.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, nous allons nous interroger sur la baisse du nombre de tests pour vérifier si oui ou non on est contaminé par le Covid. Parce que vous le savez, ça y est, ils sont devenus payants pour les non vaccinés, sauf ordonnance du médecin. Conséquence, 700 000 tests de moins effectués la semaine passée. On s'est donc demandé ici à la rédaction si cela allait fragiliser quelque part le suivi de l'épidémie. Nous allons poser 3 questions à la brigade RTL. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
Ce sont essentiellement les non-vaccinés qui ne se testent plus.
Oui, et on s'y attendait d'ailleurs, hein, car les tests sont gratuits pour les vaccinés. Et aujourd'hui, selon les pharmaciens, ce sont en grande majorité des personnes qui se faisaient tester pour avoir le pass sanitaire qui ne viennent plus. La chute du dépistage concerne toutes les tranches d'âge, sauf les mineurs pour qui les tests sont restés gratuits. La baisse la plus marquée, c'est chez les jeunes actifs, les 26 à 40 ans. Les laboratoires ne sont pas vraiment concernés par cette baisse du dépistage. Les pharmacies, en revanche, pratiquent en ce moment 30 à 40% de tests en moins.
Est-ce que cette baisse inquiète les autorités de santé, les professionnels? En clair, est-ce que ce sera plus difficile à l'avenir de suivre l'épidémie?
Alors, c'est sûr qu'il faut partir du principe que le nombre de nouveaux cas par jour est désormais sous-estimé. C'est logique. Il y a a moins de tests, donc on repère moins de cas. Quand les non-vaccinés se testaient pour pouvoir aller au restaurant, par exemple, on trouvait parfois, c'est vrai, quelques cas positifs. Mais cela n'inquiète pas pour autant les épidémiologistes que nous avons contactés. D'abord, parce que ce qui importe, c'est l'évolution des courbes, pas vraiment le nombre de cas. Ensuite, parce qu'on pratique toujours plus de 2 millions de tests par semaine, c'est suffisant, disent-ils, pour suivre la circulation du virus. Et enfin, parce que les personnes qui ont des symptômes et les cas contacts, vaccinés ou non, continuent de se tester gratuitement, tout comme les jeunes moins vaccinés, et ça c'est le plus important.
Les explications de la brigade RTL, merci beaucoup Agathe Landais. Allez, une pause et dans un instant notre invité sera l'homme qui doit remodeler le sport français. Nous sommes quasiment à 1000 jours des JO de Paris 2024. Claude Onesta a déjà connu l'or avec les experts du handball et le gouvernement lui a demandé de booster nos chances de podium, c'est sa mission. Alors comment relever le défi en 3 ans seulement? Sa réponse juste après ça.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
Et bonne fin de journée, vous écoutez donc RTL et cette fois le compte à rebours est vraiment enclenché. Ce week-end nous serons à 1000 jours des JO 2024 de Paris. Ce soir notre invité est l'homme chargé de booster nos chances de médailles. Le gouvernement lui a confié cette mission. Bonsoir Claude Onesta.
Bonsoir.
Les médailles vous connaissez, 2 titres olympiques à la tête de l'équipe de France de handball. Désormais vous êtes le manager de la haute performance à l'Agence Nationale du Sport. Très vite après les JO de Tokyo, les JO de l'été dernier, vous avez estimé que le bilan n'était pas franchement à la hauteur. 33 médailles glanées, on le rappelle, contre 42 à Rio en 2016. Le compte n'y est pas.
Écoutez, c'est décevant. Bon, tout ça est assez complexe dans un environnement sanitaire compliqué. Donc, le moment était compliqué. Donc, on évite de tirer des conclusions trop rapides. Bon, par contre, c'est vrai que ce résultat sec n'est pas satisfaisant et ben on se dit qu'on part d'un peu plus loin qu'on ne l'imaginait. Donc ça a le mérite au moins de nous montrer la difficulté de la tâche et surtout qu'il n'y a plus de temps pour être au ralenti ou hésiter.
Et est-ce qu'il y a des fédérations, des sports où le bilan n'est vraiment pas satisfaisant? On pense à l'athlétisme, à la natation. C'est 250 médailles environ décernables à chaque JO. À Tokyo, la France a gagné une médaille en athlée, une médaille en natation. Ça paraît faible.
De manière comptable, c'est très faible et trop faible, bien évidemment, puisque c'est plus proche de 300 que de 250. Mais d'un autre côté, les médailles, elles ne se décident pas ou elles ne se décrètent pas. On peut pas non plus ne parler que de l'athlétisme et de la natation. On essaie effectivement aussi de voir dans d'autres sports qui sont des pourvoyeurs de médailles potentielles et qui n'ont pas été très efficaces à Tokyo, comme le cyclisme, comme la lutte, et de ça, il y a le canoë kayak, il y a plein d'autres épreuves dans lesquelles il y a pas mal de médailles à aller chercher et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à mobiliser. Donc on travaille avec chacun d'entre eux pour voir très vite mettre en œuvre ce qui nous permettra de régler ces points de faiblesse et de retrouver le chemin des podiums.
Vous l'avez dit, le temps presse, il reste 3 ans seulement, 1000 jours avant les JO 2024. Est-ce que c'est suffisant pour faire progresser le sport français? Tiens, écoutez Teddy Riner, notre star du judo. Quand le ministre Jean-Michel Blanquer fixe un objectif de médaille, il ironise quelque peu sur RTL. Écoutez-le.
Tu veux que je te dise la vérité? La France est une grande nation du sport. Maintenant, se dire qu'on va faire 90 médailles à Paris 2024, non. J'aimerais qu'on me fasse mentir, hein, mais il faut faire beaucoup plus de choses pour pouvoir prétendre à 90 médailles en 3 ans. Il fallait investir déjà 7 ans en arrière dans le sport, massivement. On pourra toujours se cacher derrière le Covid.
Voilà, on entend un certain scepticisme. Franchement, Claude Onesta, 3 ans pour renverser la donne, est-ce que ce n'est pas trop court? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire en 3 ans?
Je crois que Teddy a raison. Il connaît bien évidemment la performance de niveau mondial et il sait ce qu'elle coûte et comment on l'a construit. Dire qu'on aurait dû commencer 10 ans avant l'échéance, c'est une évidence. Donc petit à petit, on se rend bien compte que ben, on est en retard. Pour autant, c'est pas parce qu'on est en retard qu'il faut s'arrêter. Et donc on met en œuvre tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour réussir l'échéance de Paris. Mais on a aussi conscience en même temps que tout ce que l'on met en œuvre pour Paris ben, sera peut-être plus influent sur les échéances d'après.
Mais qu'est-ce qu'on rénove? C'est-à-dire c'est la formation, c'est la gestion de la haute performance pour les sportifs de haut niveau, l'encadrement?
Je crois que ce qui manquait beaucoup au modèle français, c'était la capacité à traiter les tout meilleurs. L'idée, c'est comment on fait passer un huitième de la huitième place au podium et comment on fait passer un troisième à la première marche du podium. Et ça, c'est vraiment une logique spécifique qu'il faut mettre en œuvre. Et ceux qui doivent réaliser des médailles, ben, il faut les traiter, non pas de manière globale, mais d'individualiser vraiment tout ce qui construit, je dirais, les éléments de leur performance. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup plus recentré nos cibles, que peut-être le sport français, pendant très longtemps, a éparpillé ses moyens. On va construire ce qu'on appelle les cellules performance 2024 dans les fédérations, où on va identifier les populations d'athlètes, les populations d'entraîneurs, qui sont réellement ceux sur qui on va miser pour réaliser les performances à Paris. Et on va mettre des moyens spécifiques là-dessus.
Est-ce qu'on peut prendre un exemple? On est à environ 100 jours des JO d'hiver en Chine et on découvre que le numéro 1 français du patinage artistique, non qualifié d'ailleurs, Kevin Emoz, 9e aux derniers mondiaux, à un entraîneur bénévole. Ça paraît dingue. Il y a quelque chose à corriger, là?
Bien sûr qu'il y a des choses à corriger. Et ça, ce travail-là, c'est notre quotidien. Je dirais le chemin est pas aussi caricatural très souvent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre chacun des acteurs et être capable de construire autour de lui l'environnement de performance dont il a besoin. On a beaucoup progressé autour des athlètes, notamment, qui ont aujourd'hui un statut, une couverture sociale, qui ont des moyens et des ressources, qui sont devenus beaucoup plus réguliers qu'ils ne l'étaient précédemment. Je crois qu'il y a un gros travail qu'on lance pour faire monter en compétence l'encadrement, mieux récompenser, mieux rémunérer les gens qui réussissent, pour recruter des experts à l'étranger quand on n'en a pas sur le territoire français.
Oui, ça c'est nouveau, il y a un tabou sur l'étranger, c'est vrai qu'on voit des entraîneurs français chez nos voisins et pas forcément l'inverse.
Déjà on essaie de faire revenir les entraîneurs français qui réussissent à l'étranger, mais quand il n'y a pas d'entraîneurs français de niveau suffisant et d'expertise suffisante du très haut niveau, il n'y a pas de honte à aller chercher l'expertise là où elle est.
Et pour terminer, Claude, est-ce qu'il y a des leçons, des méthodes à importer des disciplines usines à médailles? Je pense au judo en individuel et puis au sport co que vous connaissez par cœur, handball, basket, volley qui ont rayonné au Japon. Est-ce qu'il y a des facteurs qui expliquent leur succès et qu'on pourrait transposer dans d'autres disciplines aujourd'hui?
Il y a des disciplines qui ont su créer une forme de spirale de la réussite, donc il y a une culture de la réussite. Dans les 3 ans qui nous restent, l'essentiel de nos efforts doit porter d'abord sur les bonne cible. Je pense qu'ensuite, on va surtout essayer de jouer sur l'enthousiasme, sur la confiance, sur des éléments qui vont progressivement monter dans le pays. On n'est pas que sur des éléments techniques, on est aussi beaucoup sur de l'accompagnement psychologique, sur une sensation de soutien collectif, d'engouement national. Je crois qu'on va beaucoup travailler là-dessus pour que, justement, ça soit un peu le tremplin qui nous permette d'aller accéder à des niveaux de résultats supérieurs.
Bon, il reste 1000 jours donc, pour soulever cet enthousiasme. Merci beaucoup, Claude Onesta, manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport, vous qui êtes chargé de booster nos chances de médaille avant les JO de Paris 2024, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL.
Merci.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
Alors, on marque une toute petite pause et ensuite RTL Soir va se poursuivre avec les dessous de l'actu, les dessous des bénéfices monstres de Total, 23 fois plus importants que l'an passé. Et ceci au moment où votre porte-monnaie grimace à la pompe. Et si le géant du pétrole faisait un effort? A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. RTL.
Bonne fin de journée avec RTL, 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Il est grand temps de vous rappeler les titres de l'actualité. Marion Calais, c'est à vous.
Le bras de fer sur la pêche entre Paris et Londres après les menaces de rétorsion de la France. Le ministre de l'Intérieur et de l'Environnement de Jersey dénonce sur RTL la puérilité des autorités françaises et appelle à un dialogue plus large avec l'Europe. Permis de conduire, langue ou informatique, le nombre de formations suivies dans le cadre du compte personnel de formation a quasiment doublé entre 2019 et 2020. Chiffre de la DARES dévoilé cet après-midi. Et puis le forfait de Kylian Mbappé pour le match de demain contre Lille, l'attaquant victime d'une infection ORL.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps, Peggy, demain ça se gâte, mais ça se gâte sérieusement.
Ça se gâte sérieusement, exactement, puisque c'est un défilé de perturbations qui nous attend là. Demain matin, on aura des nuages, de la pluie et du vent sur l'ouest d'abord. Dans l'après-midi, la perturbation se décale de l'Aquitaine aux Hauts-de-France en passant par l'Île-de-France. Le nord-ouest va retrouver quelques éclaircies, mais encore quelques averses. Dans l'est, ça restera beau et calme le matin, mais plus voilé l'après-midi. Et dans le sud-est, attention, un ciel chargé dans la matinée, quelques pluies entre la Méditerranée et la Corse, mais ces pluies vont se renforcer sur les Cévennes dans l'après-midi. Début d'un épisode cévenol, on attend de fortes pluies, importants cumuls. Ça va se gâter, situation à surveiller, le tout sous des températures encore douces, même si elles sont en baisse, de 15 à 19 au nord et jusqu'à 22 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, les dessous des bénéfices astronomiques de Total, multipliés par 23 en un an. Écoutez bien, 4 milliards 600 millions d'euros de bénéfices nets, rien que sur le troisième trimestre de l'année. Alors forcément, ces chiffres interpellent au moment où l'énergie, l'essence vous coûte de plus en plus cher. Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir.
Comment expliquer ces résultats XXL ?
C'est tout simplement la remontée des cours des hydrocarbures qui génère ces profits monstres pour le géant pétrolier. Quand vous payez votre plein de sans-plomb ou de diesel plus cher, Total gagne tout simplement plus d'argent. C'est vrai aussi pour le gaz, dont la flambée est là carrément historique, en moyenne plus 10% par mois depuis l'été. Résultat, c'est 5 milliards d'euros de bénéfices en un trimestre, 23 fois plus que l'an dernier, vous le disiez. Alors, faut préciser que c'était une année historiquement faible, mais c'est vrai que même si on prend 2019 plus standard comme référence, l'augmentation des bénéfices du groupe reste énorme, plus 66%.
Ces résultats, ils sont forcément déjà commentés. Le candidat insoumis à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, s'insurge, compare évidemment avec la situation des Français. Pierre, est-ce que Total aurait pu faire un effort pour faire baisser, par exemple, les prix à la pompe ?
Alors, j'ai posé la question à François Carlier, de l'association de consommateurs CLCV, et vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça.
Cette année, quand on regarde par exemple sur les produits pétroliers, le carburant, le fuel, c'est le prix du baril qui est très élevé. Bon, ça profite à Total parce qu'il est producteur de pétrole. Mais tout ce qui est un peu marge d'intermédiaire, c'est-à-dire de distribution ou de raffinage, sont à des niveaux assez standards. Le consommateur le paye, mais il paye surtout effectivement un état du marché des matières premières. Donc il n'y a pas tellement à gratter, si je puis dire, pour être franc. C'est plutôt l'état du marché et puis le niveau des taxes qui doit interroger.
Du coup, qu'est-ce que réclament les associations de consommateurs ? Une utilisation intelligente de cet argent ?
Oui, exactement. D'accord pour les méga-profits, puisque c'est le marché qui veut ça en quelque sorte, mais à condition que ces bénéfices soient utilisés pour investir, un, dans les énergies renouvelables, et deux, dans la rénovation thermique des logements.
Les dessous des bénéfices monstres de Total avec Pierre Herbulot ce soir pour RTL.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34 minutes.
Laissez-vous tenter dernière.
On change d'air maintenant. Laissez-vous tenter dernière tous les soirs. Les jolis conseils de la joyeuse bande de LVT. Julia Molcou avec nous ce soir. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et une fois encore, vous avez LA bonne idée pour occuper nos enfants.
Bah écoutez, nous sommes en plein dans les vacances de la Toussaint. Il faut se serrer les coudes entre parents. Et pour les petits Parisiens et enfants d'Île-de-France, voici le retour d'un spectacle tout à fait réjouissant, Peter Pan. Alors, faut-il vraiment que je vous raconte l'histoire de Peter Pan ?
Non, commencez à la connaître.
Je crois que c'est bon. Mais sachez que toute la magie de l'histoire extraordinaire est parfaitement retranscrite dans ce spectacle. On s'envole vers le pays imaginaire, on devient ami avec les enfants perdus, on rencontre Lily la tigresse en vrai, et bien sûr, on affronte le capitaine Crochet et son équipage de pirates. C'est génial.
Je veux toujours rester un garçon et m'amuser.
Mais elle va plus. Oh. Les garçons ont trouvé une mère.
Allez, entrez tout de suite, vilain garçon.
Peter a sauvé ma fille. Notre reconnaissance est vaste, comme la plaine où courent les bisons.
Pas de Jérémiade, au revoir Wendy.
Arrêtez ce numéro, et toi, avance d'un pas.
C'est un immense succès dans ce spectacle, Julia.
Ah mais c'est peu de le dire. 500 000 spectateurs ont déjà applaudi et adoré les 15 comédiens, danseurs et chanteurs qui font vivre la magie de Peter Pan. Mais vous pouvez pas savoir comme c'est bien. C'est drôle, c'est parfois émouvant. En tout cas, c'est prenant, on s'ennuie pas un instant. Je le rappelle, je n'ai plus 5 ans, j'en ai 30 de plus et j'ai adoré. Vraiment, foncer, emmener vos enfants au Théâtre Bobino, salle mythique dans le 14e arrondissement de Paris. Ils s'en souviendront et qui sait, peut-être que ça leur filera une vocation. Acteur, chanteur, danseur ou peut-être pirate, je sais pas,
qui
on verra.
Qui sait, effectivement. Vous n'avez plus 5 ans, mais vous avez adoré, c'était votre conseil. Merci beaucoup Julia, on se retrouve demain pour un nouveau Laissez-vous tenter dernière. Dans un instant, autre bande, celle dont défait le monde. On marque une courte pause avant de retrouver et Cyprien Sini, et Céline Landreau, oui, et Arthur Asquin, et Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Et bonsoir.
Alençon, Lyon-la-Duchère, Marseille. Ah, là, ce n'est pas Peter Pan. Hein. Ah, est-ce que la violence a explosé ces dernières années ? Enquête juste après ça, tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.